Bonjour à tous, c'est Hugues de MediaConnect, la filiale de l'AFP spécialisée dans la simplification des relations presse. C'est parti pour un nouvel épisode de notre podcast. Cette semaine, on joue à domicile, on enregistre dans les studios de l'agence France Presse, agence de presse de réputation mondiale et comme tous les médias, c'est aussi une entreprise très engagée en l'occurrence contre la désinformation. Ça bouge cette semaine avec Grégoire Lemarchand et Sophie Nicholson, rédacteurs en chef et rédactrices en chef adjointe de l'investigation numérique à l'AFP. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Évoquons tout d'abord donc les Digital Courses, ces modules de formation en ligne gratuits lancés par l'AFP cette année pour permettre aux journalistes et aux étudiants en journalisme d'affûter leurs compétences en matière d'investigation numérique. Avant d'entrer dans le pratico-pratique, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à l'AFP à mettre en place ces modules ?
Nous avons constaté dans notre département d'investigation numérique un appétit, un besoin de formation en continu. On a commencé à en parler même avant le COVID, mais pendant le COVID, on a ressenti un besoin d'avoir quelque chose en ligne pour pouvoir atteindre pas seulement les journalistes à Paris, mais aussi les journalistes à l'étranger qui travaillent avec nous. Et on avait des journalistes qui commençaient à être un peu experts dans le domaine d'investigation numérique, qui former les nouveaux, les jeunes qui étaient chez nous, et on ne voulait pas perdre toute cette expertise. Donc, on voulait enregistrer quelque chose pour garder un peu cette expertise et partager avec le plus grand nombre de personnes possible. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt, un besoin aussi de former des gens au-delà de nos portes, dans notre service d'investigation numérique. Parce que c'est beaucoup de ces techniques, c'est pas pour des fact-checkers, c'est des choses pour tous les journalistes en fait. C'est des manières de travailler plus rapidement, d'une manière plus efficace en ligne.
Comme disait Sophie, on n'est pas uniquement pour les gens qui travaillent sur la vérification des informations, sur le fact-checking. Il y a vraiment l'idée que tout ce qu'on enseigne dans ces modules est utile pour n'importe quel journaliste professionnel, quel que soit son âge, et effectivement pour les journalistes en formation.
Alors concrètement, quelle est l'architecture de ces modules? Qu'est-ce qu'on y trouve? Comment ça marche?
Donc, c'est une plateforme de formation en ligne. On a besoin de s'inscrire. C'est très facile, c'est très rapide pour créer un compte. Une fois qu'on a un compte, on a le choix de, parmi, en ce moment, il y a 10 modules. On en aura plus parce que c'est quelque chose qui va évoluer pendant des mois et des années à venir. Donc, chaque module commence avec une petite vidéo d'une minute juste pour expliquer ce qu'il y a dedans. Après, il y a des explications, il y a des exemples de nos équipes partout dans le monde pour la pratique, pour montrer comment nous, on a utilisé des outils dans des situations diverses. Et il y a des exercices, des quiz pour tester les connaissances. Et c'est, pour nous, l'important, c'est de bien expliquer. C'est pas grave si vous n'avez pas 100%. L'important, c'est d'apprendre. Donc, on a essayé de faire en sorte que tout est très ludique. C'est pas très long. C'est quelque chose qui dure à peu près une heure. Chaque module dure à peu près une heure. Au niveau le plus difficile, ça peut durer un peu plus longtemps parce que c'est assez poussé sur la géolocalisation, de travail avec des cartes en ligne pour identifier des choses faites par nos experts. Et une fois que c'est fini, il y a un certificat à la fin pour dire que vous avez terminé, vous avez tout fait. Et puis, il y a des suggestions sur les autres sujets qui pourraient être liés à ce que vous venez de faire, qui pourraient vous intéresser.
Comme je le disais, ces modules sont à destination des journalistes et des étudiants en journalisme. Pourquoi pas le grand public ? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue ou en fait la question est écartée ?
On a vraiment fait une formation qui, j'allais dire, nécessite d'avoir les bases de connaissances journalistiques. On n'est pas dans un module d'éducation aux médias, même si on retrouve beaucoup de choses évidemment communes. Donc, pour certains exercices, il faut, j'allais dire, avoir une logique éditoriale, une logique de journaliste. Voilà. Après, effectivement, des personnes particulièrement intéressées à la lutte contre la désinformation, à la vérification, je ne sais pas, pour des ONG, etc., peuvent suivre ces formations, mais on on peut pas mentir, on peut pas dire que c'est accessible à n'importe qui. Ensuite, la formation est en accès libre et encore une fois, si vraiment des gens sont motivés, on ne leur mettra pas des bâtons dans les roues s'ils ne sont pas journalistes ou étudiants en journalisme. Mais voilà, faut pas qu'ils nous disent après, ouais, vous vendez une formation, mais moi j'ai pas tout compris. Oui, parce que y a rien de très sorcier, mais ça s'adresse d'abord à des particuliers. Ça s'adresse d'abord à des professionnels.
Professionnels, oui. Très bien. Pour ce projet, l'AFP s'est associé à la Google News Initiative. Pourquoi Google ?
Très clairement, monter une plateforme de formation professionnelle, respectant des standards très hauts de formation, de certification, et qui s'adresse aujourd'hui, la plateforme est disponible en français, en anglais et en portugais. Elle le sera normalement courant de l'année prochaine, courant 2023 en espagnol, et peut-être à l'avenir encore d'autres langues, et qu'on s'adresse finalement au monde entier. Il faut avoir quelque chose de solide, prendre du temps, le gérer au quotidien, faire évoluer les formations. Les formations, elles vont forcément évoluer, elles ne sont pas figées dans le temps. On voit aujourd'hui les changements qu'il y a sur Twitter. On va devoir faire des mises à jour à un moment ou à un autre. Et que pour financer des choses comme ça, ça coûte cher. On a besoin de soutien. Et c'est pour ça que le projet a été pitché, comme on dit, à Google News Initiative et qu'a été séduit par le projet.
Pour nous, ce qui était très intéressant, c'est le fait qu'on peut proposer ces formations sans aucun coût. Donc, surtout pour les journalistes, mais aussi les étudiants en journalisme, mais aussi pour les journalistes, l'important, c'est de pouvoir y accéder comme vous voulez, sans payer, parce que ce sont des formations de base que nous, on veut partager le plus possible entre nos équipes et au-delà.
Plus largement, vous êtes tous les deux à la rédaction en chef donc d'un service d'investigation numérique. Quels sont les moyens humains dont vous disposez pour faire tourner la machine de ce service à l'AFP ?
Alors, l'investigation numérique à l'AFP, elle a réellement démarré en 2017 avec un journaliste travaillant en français à Paris. Aujourd'hui, on est 138 dans le monde et on travaille en 24 langues. Donc, pourquoi ? Un, parce que c'est une priorité éditoriale de l'AFP. Aujourd'hui, quand on entend être une agence de presse moderne, on ne peut pas passer à côté de la désinformation dans le sens où la désinformation pourrit l'écosystème informationnel et on ne peut pas dire « Ah, ben on n'en parle pas parce que nous, on doit parler des choses qui se... » avérés, qui se sont déroulés, qui sont sourcés, c'est vrai, mais il faut aussi parler de ce qui vient perturber les vraies informations. Donc c'est une priorité éditoriale, et puis ensuite, pour dire les choses, c'est clairement aussi la lutte contre les désinformations, une priorité des plateformes. Ouais. Et les plateformes, dans ce travail, elles ne peuvent pas tout confier à l'intelligence artificielle, loin de là. L'intelligence artificielle peut être très utile pour plein de choses, mais certainement pas pour lutter contre la désinformation. On a besoin de matière grise, on a besoin d'humains, on a besoin des médias, on a besoin des fact-checkers. Et donc, l'AFP, comme d'autres médias, mais clairement l'AFP est leader mondial là-dessus, n'ayons pas peur de le dire. On travaille avec les plateformes, avec Meta sur Facebook. On travaille aussi avec TikTok. À chaque fois avec l'idée de réduire la visibilité et la viralité des fausses informations sur ces plateformes. En deux mots, par exemple, sur Facebook, c'est un programme, il y a 80 médias à peu près dans le monde, on n'est vraiment pas les seuls. Ça s'appelle le third party fact-checking. Et nous, ça nous permet, une fois qu'on a repéré une publication fausse, mensongère, trompeuse sur Facebook ou sur Instagram, on va écrire un fact-check, on va expliquer pourquoi c'est faux, pourquoi c'est trompeur. Et on va mettre comme un drapeau, comme un signalement sur la publication. Et si vous, utilisateur de Facebook ou Instagram, vous voyez cette fausse information sur votre fil d'actualité, sur votre newsfeed, sur Instagram ou pour Facebook, on va vous signaler que c'est une fausse information et on va vous dire pourquoi en vous invitant à lire et à consulter le fact-check. Donc pour nous, c'est intéressant parce que on agit directement sur la circulation de la désinformation parce que Facebook et Instagram font une dernière chose, c'est-à-dire de donner, à partir du moment où l'information est fausse, l'algorithme va donner beaucoup, beaucoup moins de visibilité à la fausse information. Et ça, c'est important puisque la fausse information se nourrit de viralité.
Alors, vous avez anticipé donc sur la question...
Pardon.
Non, mais c'est très bien. Sur la question un peu finale, c'est-à-dire c'était par rapport aux résultats finalement qu'on obtient quand on fait de l'investigation numérique. Parce que quand même, aujourd'hui, on a des fausses informations qui pullulent sur Internet et donc vraiment pratiquer l'investigation numérique, c'est devenu un vrai sport de combat parce que c'est un peu l'hydre à plusieurs têtes, on coupe une tête, il y en a 10 qui poussent derrière. Et donc moi, ce qui m'intéresse également, c'était déjà, un, votre sentiment, comment est-ce que vous vous sentez face à ça, impuissant, combatif, à vous de me dire. Et puis finalement, de ce que vous me dites, il y a quand même déjà des résultats qui se font voir, quoi.
Je veux pas dire combat. J'aime pas le mot combat parce ouais. que c'est pas on n'est pas en fait l'important pour nous ça a toujours été la même chose en tant que journaliste, en tant qu'agence de presse, c'est de vérifier et d'être sûr que ce qu'on partage a été vérifié. On a confiance dans les sources de ce qu'on publie. Et donc, c'est pour moi, je ne sais pas, Grégoire, mais pour toi, mais c'est une extension de ce qu'on a toujours fait.
Mm-hmm.
À la fin, ce qu'on fait, l'important de ce qu'on fait, c'est juste l'idée d'essayer d'évoluer avec la manière dont l'information est partagée dans la société, l'essayer d'être le plus transparent possible avec le public pour qu'ils comprennent pourquoi on fait ce qu'on fait, pour montrer que la vérification, l'investigation numérique, c'est quelque chose qu'on a tous besoin de savoir faire un petit peu. C'est un peu pour ça qu'on a créé ces formations. C'est quelque chose qui, à la fois, c'est l'affaire de tout le monde, tous les journalistes, tout le monde au-delà du journalisme aussi.
Donc, si je comprends, ça permet de dissiper un petit peu, selon vous, le fait d'être transparent là-dessus. Ça permet également de dissiper le sentiment de défiance qu'il peut y avoir chez certaines personnes envers les journalistes, leur travail, etc.
Oui, c'est surtout pas une bataille pour nous,
ouais,
dans le
comprends.
Sens où, pour nous, on n'est pas contre les gens.
On veut
être avec des gens, on veut bien corriger si nous, on fait une erreur. On veut bien aller voir la source. Les choses changent très vite en ligne et on veut juste essayer d'être le plus près possible aux gens, au public, en faisant notre travail.
En fait, la question que vous nous posez, c'est est-ce que ça sert à quelque chose ? Donc évidemment, on est convaincu que oui, sinon on n'y mettrait pas autant d'ardeur et de conviction. Mais ce que je comprends aussi, c'est que y a une question qui est souvent adressée au fact-checking, c'est de dire, mais vous ne prêchez que des convaincus, et finalement les gens qui ont répondu ou consommé la fausse information, vous n'allez pas les toucher. Alors, d'une part, c'est faux, puisque comme je l'expliquais avant, on a, par exemple, le programme de lutte contre la désinformation de Meta permet de toucher ces gens-là directement. Je ne dis pas qu'ils changent d'avis, mais parfois il y a des gens qui nous disent « Ah bah désolé, je ne pensais pas et je vais me corriger ». On a 20% des gens qui, de toute façon, sont en défiance absolue par rapport aux médias, ce qu'ils appellent les médias mainstream, et j'allais dire, qui sont hélas presque perdus pour la cause.
Ça ne changera pas, ouais.
Voilà. Et puis vous avez de l'autre côté, vous avez 20% de gens qui sont plutôt en confiance et ne sont pas susceptibles de propager de la fausse information. Donc on a 20 d'un côté et 20 de l'autre. Mais au milieu, on a une large majorité qui est 60%. 60% de gens qui sont dans une zone grise et qui se posent des questions, et des questions parfaitement légitimes. Parce que les politiques et les médias aussi sont pas parfaits. Donc c'est plutôt à ces gens-là qu'on s'adresse. Et que ce qui est intéressant aussi dans une démarche de fact-checking, c'est que la caricature, c'est comme si on arrivait, qu'on mettait des coups de tampon vrai-faux dès qu'on voit quelque chose sur le net. Parfois, c'est ça, parce qu'on a des faux grossiers, des manipulations grossières, mais quand vous regardez ce qu'on produit, la plupart du temps, ce qu'on dit, on ne dit pas c'est vrai ou c'est faux, on dit c'est beaucoup plus compliqué.
C'est nuancé.
Donc nous, on essaye d'apporter de la nuance, de la remise en contexte, etc. Et pour s'adresser à des gens qui sont, et encore une fois, c'est légitime, qui se posent des questions, qui sont en attente de réponses. Donc très modestement, on essaye de leur apporter des réponses.
Eh bien, super. Merci Sophie, merci Grégoire. Grégoire Lemarchand, Sophie Nicholson, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef et rédactrice en chef adjointe à l'investigation numérique à l'AFP. Au revoir, merci d'avoir été avec nous.
Merci, au revoir.
Et merci à tous de nous avoir écoutés, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, tout de suite sur mediaconnect.com. Ciao.